Chapitre 2. Le pouvoir de la croyance. La force de croire. Tout commence par une croyance. Il faut y croire pour le voir. Voici l'immense puissance qui est à la disposition de l'athlète de la vie. Comme nous l'avons vu précédemment, tout prend sa source dans une simple interprétation qui ne dépend que de nous-mêmes. C'est le territoire du libre choix qui va en permanence nous indiquer la manière juste de penser, de parler et d'agir. Trop souvent, cette possibilité d'évoluer, pourtant énorme, n'est toutefois pas gérée de façon optimale et en toute conscience. De ce fait, nous répétons inlassablement, par pure habitude, les scénarios qui sont en grande partie imprégnés du subir. Nous sommes en fait en déséquilibre, mais comme nous interprétons cela comme un état normal, nous répétons inconsciemment toute action faisant partie de l'habitude, sans jamais remettre en question son utilité. En effet, il a été évalué scientifiquement qu'un être humain engendre environ 60 000 pensées par jour, dont 95% sont des pensées du jour précédent. Si aucun travail sérieux n'est mis en place, je vous laisse imaginer le chaos, car mes pensées deviennent mes paroles se transforment en actions, mes actions façonnent des résultats. Et voici la seconde révélation de l'athlète de la vie. Il est avant toute chose un créateur de résultats. Il décide donc de prendre la responsabilité du processus créatif et y travaille avec assiduité pour bâtir les racines solides de ses succès prochains. Tout dépend de son attitude. Son but est de dépasser ses croyances les plus profondes quant à ce qu'il croit possible ou non, afin de transformer son expérience de vie. L'athlète de la vie a compris que, pour atteindre tout objectif ambitieux, le préalable absolu est d'y croire, de s'y attendre du plus profond de sa chair. Il sait donc que rien ne sert de blâmer les circonstances extérieures, les autres ou lui-même, mais que son but est de se consacrer méticuleusement à élaborer à chaque instant une version plus élevée de ses compétences. S'il est insatisfait par les résultats désagréables qu'il obtient, il décide d'utiliser consciemment, dès à présent, le processus naturel qui le mènera au succès tant désiré. Il n'est plus prisonnier de l'apparence des choses. Il a banni le mot « échec » de son vocabulaire et ne le craint pas, puisqu'il sait qu'il n'a affaire tout simplement qu'à des résultats. Prenons un exemple concret. Une jeune femme se trouve complètement frustrée par sa dépendance à la cigarette. La publicité l'avait fait rêver d'un sentiment incomparable de liberté. Et la voici qui se retrouve prisonnière, retenue derrière un mur de fumée. Ceci malgré sa silhouette avantageuse, que sa meilleure amie ne manque jamais de relever, elle qui ne fume pas, mais en revanche se plaint beaucoup de ses kilos superflus. Un premier schéma de pensée pourrait la conduire à vivre un profond échec personnel dans lequel elle pourrait littéralement s'engluer. Mais elle pourrait tout aussi bien déterminer qu'être dépendante de ces pauses cigarettes obligées n'est pas un échec, mais une situation qu'elle a délibérément créée, qu'en fait, elle sait comment parvenir, chaque jour, à utiliser du temps pour fumer. Elle maîtrise la stratégie pour réaliser l'objectif du fumeur. Elle deviendrait ainsi non un échec, mais une créatrice de résultats. Par conséquent, si ce résultat ne lui convient plus, elle a désormais la possibilité de mettre en place une stratégie concourant à se libérer de son entrave en utilisant à bon escient le processus naturel pour son bien-être et non plus pour son mal-être. Si elle prend soin de penser, parler et agir de façon différente dans ce qui a trait à son objectif précédent, le reste suivra naturellement. Cette jeune femme, motivée en toute conscience à changer, va découvrir avec stupéfaction les avantages d'être fumeuse. Il s'agit donc de considérer, et nous l'avons expérimenté avec mon équipe lors de différents coachings, que la personne qui fume possède le privilège de savoir se discipliner pour s'offrir des pauses au cours desquelles elle se retrouve, bien souvent, connectée à son intériorité. La réelle supercherie qu'elle subit, c'est de croire que la cigarette lui apporte le bien-être tant convoité. En fait, lorsqu'elle fume, elle utilise sa mécanique respiratoire à chaque bouffée et c'est là l'origine réelle de son réconfort. Au milieu de sa tourmente, elle pratique en fait inconsciemment l'art respiratoire. Et cette considération nous amène à expliquer un point important. Pourquoi une personne qui cesse de fumer prend-elle souvent du poids? Sur le plan physiologique, le système lymphatique a pour fonction de faciliter l'élimination des toxines du corps. Lors de mon expérience d'enseignant dans le domaine de la forme et de la santé, j'ai pu expérimenter qu'une respiration de qualité améliorait les cas de rétention d'eau attribuables à une déficience du système lymphatique. Car si la circulation sanguine fonctionne grâce à la pompe qu'est le cœur, le système lymphatique, lui, pour fonctionner, ne peut compter que sur la mécanique respiratoire. Très souvent donc, la personne qui cesse de fumer prendra du poids simplement parce qu'elle ne pratique plus cette mécanique. Mais pendant ce temps, son mental lui explique qu'elle compense le manque qu'elle éprouve en se rabattant sur la nourriture. Résumons-nous. Le but n'est pas bien sûr d'encourager à fumer, mais d'identifier ce qui se produit et de l'utiliser. Notre jeune femme, sans cigarette, va pouvoir, avec la même régularité que précédemment, s'offrir ses pauses énergétiques uniquement dévolues à la respiration. Une pratique délivrée de toute culpabilité à appliquer soit radicalement, soit progressivement, selon ce que son cœur lui dit. Elle peut, par exemple, dans un premier temps, fumer avec plaisir les cigarettes qu'elle choisit et remplacer toutes celles qu'elle consomme mécaniquement par des respirations profondes. Puis, à son propre rythme et selon son désir, elle va se libérer de cette dépendance progressivement, augmentant sa mécanique respiratoire jusqu'à une liberté retrouvée par elle-même. Précisons enfin que l'amie de cette jeune femme, qui elle-même avait pris du poids par rétention d'eau, a pu, elle aussi, retrouver une silhouette des plus flatteuses grâce à la même pratique respiratoire. L'athlète de la vie connaît la maxime « il faut y croire pour le voir ». C'est l'arme blanche des plus grands champions et ce n'est pas un manque d'humilité mais la puissance de la concentration au service de la tâche quotidienne afin de matérialiser sa vision la plus ambitieuse. Je vous propose un autre exemple pour mettre en avant le pouvoir de la croyance. Imaginons un vendeur de 29 ans, travaillant depuis quelques mois dans une grosse société, laquelle a entrepris une restructuration avec les conséquences néfastes que l'on sait. Évoluant depuis une dizaine d'années dans ce monde de la vente, il a été successivement au service de deux petites entreprises familiales au sein desquelles il a obtenu des résultats se situant dans une honnête moyenne. On lui a attribué jusque-là un certain potentiel, bien que sa formation professionnelle ne soit pas traditionnelle, qu'il ne possède aucun diplôme et que son caractère soit relativement difficile. Malgré cela, grâce à un contact spontané avec un ancien client devenu relation de confiance, il a osé postuler pour un poste de représentation dans une multinationale réputée. Et, à sa grande surprise, un contrat d'essai de 6 mois lui a été proposé. Dans cette situation précise, deux croyances racines s'offrent à cet homme. L'une fait office de frein, l'autre énergise. il peut en effet se concentrer à juger sa situation précaire et choisir, ici et maintenant, de croire qu'il n'est qu'un représentant de plus au sein de cette entreprise, avec de surcroît un engagement à l'essai. Que les rumeurs de licenciement vont bon train et sont même devenues les seuls sujets de conversation des différents collaborateurs. Qu'il n'a pas un passé professionnel glorieux. Qu'il n'a reçu aucune gratification au cours de sa jeune carrière. Qu'on ne lui a jamais proposé spontanément de travail et que l'opportunité actuelle n'est qu'un miraculeux hasard. Que les objectifs fixés sont plus qu'ambitieux. Que sa zone de prospection est reconnue pour être la plus coriace. Qu'il a un fichu caractère, comme le martelait son père, rejoint en cela par pas mal de ses professeurs et ses deux derniers employeurs. Que sa compagne l'a quitté pour un autre, ce qui indique forcément qu'il est quelconque, médiocre, pour ne pas dire complètement nul. Il en conclut par conséquent qu'il serait insensé d'envisager une carrière professionnelle fructueuse, ce que tout le monde d'ailleurs lui confirme. Il est un vendeur intéressant, mais n'appartient pas à l'élite. Son potentiel de communication est acceptable, mais il y a malheureusement été catapulté un peu tard et il devrait déjà s'estimer heureux d'occuper ce poste à l'essai, ce qui enrichira tout de même son CV. Pour le reste, il ne faut quand même pas rêver. Les meilleurs vendeurs évoluent sur une autre planète. Eh bien, cet homme a raison. Il ne possède pas des capacités de haut niveau. Ses pensées le reflètent, ses paroles le reflètent, ses démarches et ses gestes quotidiens en seront les reflets fidèles. Inconsciemment, il a choisi de demeurer prisonnier des conditions quelconques du passé et a provoqué ainsi cette sentence irrévocable. Tu n'as pas assez de talent. Il travaillera, suivra des séminaires, fixera des rendez-vous et visitera ses clients, porté par cette croyance frein qui va considérablement limiter son potentiel et sa capacité d'agir spontanément et instinctivement. Coupé de son ressenti viscéral, il se fait impuissant et son état d'esprit est teinté d'amertume, de frustration, de doute, de peur, bref, de tout ce que nous avons énuméré précédemment sous l'expression de la voix du subir de l'athlète réactif. Je le répète, cet homme-là ne vibre pas de tout son épiderme sa fonction de vendeur. Il mime. Chaque matin, il entreprend lourdement sa journée, prisonnier des croyances négatives à son propos. Il est inconscient qu'il est inconscient. Ceci représente l'état le plus pernicieux que chacun puisse éprouver. Habitué à ce processus négatif, qui nous semble tout à fait normal, nous le répétons à n'en plus finir, n'entrevoyant aucune autre porte de sortie. L'entraînement peut commencer. Un entraînement qui consiste prioritairement à désapprendre à ne pas agir en gagnant, à ne pas être performant, pour aboutir à l'état tant envié d'athlète de la vie, à chaque instant en pleine conscience, en toute spontanéité. À ce moment précis, intervient le coach, le vrai, qui possède la capacité de faire prendre conscience à l'individu qu'il est en fait son propre adversaire le plus dangereux. Qu'il a donc la capacité de quitter le subir en devenant conscient qu'il est inconscient dans sa manière de vivre son quotidien. Notre vendeur a désormais la capacité de se réapproprier son pouvoir personnel. Si, par exemple, il agissait trop impulsivement en raison du manque de sécurité qui le taraude, il se libérera de cette façon d'agir erronée en suivant différentes étapes. Nous venons de le voir. Grâce à son coach, il a pu découvrir le pourquoi de son insuccès. Puis, il devient capable de réaliser les sources des erreurs qu'il a commises. Ceci lui permet dès lors d'être conscient de ses erreurs pendant qu'il les commet. Enfin, il va pouvoir éviter de les faire. Voilà comment l'athlète de la vie pratique son quotidien, qu'il soit pianiste, skieur, danseur, entrepreneur, enseignant, retraité. Il pense juste, il parle juste, il agit juste au bon moment, au bon endroit. Revenons en arrière, retour sur image. Ce même vendeur, possédant le même potentiel, le même vécu, évoluant dans le même environnement, opte cette fois pour la croyance racine énergisante et décide d'interpréter sa situation présente comme étant excellente. Tout d'abord, il prend conscience que c'est un bonheur d'avoir été engagé à l'essai dans une multinationale alors qu'il n'avait encore jamais été courtisé pour ses aptitudes professionnelles. Il sait dans son fort intérieur que son parcours atypique représente en fait sa différence, que c'est une chance pour lui de n'avoir pas suivi la filière traditionnelle, car il a pu ainsi développer les atouts d'une certaine marginalité, quelque chose qui se distingue du chemin habituel. Il entend parfaitement ce qu'on dit autour de lui. C'est déjà bien qu'il en soit rendu là, qu'il ne faut pas rêver, car la vente à haut niveau, c'est une autre planète, que son secteur de clients a toujours été difficile et peu fructueux, même pour des vendeurs expérimentés. Mais ces affirmations provoquent chez lui un bouillonnement, un état vibratoire intense. Tous ses sens vibrent d'une énergie forte. Son cœur, son amour-propre lui crient. Relève le défi. Remercie-les de te voir comme cela ici et maintenant. Il t'offre un levier d'action d'une extrême puissance. D'accord, tu es peu expérimenté, comparativement à tous ces vendeurs de renom. Mais toi, tu es animé par un grand rêve, une vision d'une autre dimension. Celle de rayonner par tous les pores de ton être ce besoin de servir la vie. Tu as compris, au plus profond de ta chair, ces mots précieux de Colin Turner. Au travail, tu ne peux que produire quelque chose. Par contre, avec le service, tu deviens quelqu'un. Tu n'oublieras jamais que donner plus que l'excellence à travers le service ne se résume pas à accorder une faveur à un client, mais c'est une manière de vivre. Comme l'a écrit Hermann Hesse, ce qui veut vivre longtemps doit servir, mais ce qui veut dominer ne vit pas longtemps. Voilà donc où tu décides d'investir ta force, dans ces valeurs humaines essentielles auxquelles tu as toujours cru et qui t'ont fait considérer comme doté d'un sacré caractère. Mais c'est justement grâce à lui que tu es persuadé que tout est possible. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. D'ailleurs, le plus grand des vendeurs, comme le plus grand des sportifs ou des artistes, est simplement un homme qui a cru en lui alors que personne encore ne lui faisait confiance, ce qui est la marque de tout véritable champion. Eh bien, cet homme a raison. Oui, il possède la croyance racine énergisante de l'athlète de la vie. Tout est possible. Ses pensées le reflètent, ses paroles le reflètent, ses gestes et ses démarches au quotidien, progressivement, le refléteront. Il a choisi consciemment de se hisser au-dessus des conditions pénalisantes de son passé, de se servir de celles-ci comme d'un tremplin lui permettant de révéler des ressources intérieures cachées. Il sait qu'il a du talent, le sien propre, qu'il se concentrera à développer méticuleusement, jour après jour, dans ses activités les plus diverses. Il travaillera, visitera des clients, participera à des séminaires ou des réunions d'entreprise, porté par cette croyance euphorisante que tout est possible, amplifiant la force de sa personnalité, donc d'action spontanée et instinctive. Il exprimera la voix de ses tripes, emplissant le moment présent de son authenticité d'être, créant un état d'esprit enthousiaste, exalté, heureux, souple, efficace. Il a compris et intégré au plus profond de son cœur que tout inventeur, aventurier, champion, tous les personnages ayant marqué leur époque se sont réalisés en osant être déraisonnables, en fonçant, en croyant avant tout à leur capacité personnelle de matérialiser leurs rêves. C'est la voie de l'agir, de l'enthousiasmant de créativité, la voie royale qu'emprunte l'athlète de la vie. Il sait au plus profond de lui que l'énergie est toujours là où il place son attention. Comme nous avons pu le découvrir ensemble, ce à quoi l'on s'attend est toujours vrai. Si je crois que je ne peux atteindre un objectif, j'ai tout autant raison que si je crois que je vais l'atteindre. Il est donc essentiel d'avoir la capacité de trouver d'emblée un moyen pour concrétiser cet objectif, de réunir mes forces pour enclencher une action qui me rapprochera de mon but final, au lieu d'inventorier les 1000 raisons qui démontrent l'impossibilité d'agir dans le sens souhaité. L'athlète ordinaire reste, inconsciemment, prisonnier de ses croyances freins. Il se sent incapable d'atteindre le plus haut niveau, donc il l'est, puisqu'il croit à son échec et détruit à chaque instant ses possibilités. L'athlète de la vie, en pleine conscience, dynamise ses croyances énergisantes. Il se sent capable, donc il l'est, puisqu'il croit à son propre succès et défriche à chaque instant le chemin pour le réaliser. À chacun de choisir. L'essentiel de ce chapitre. 1. Je sais qu'il me faut y croire avant tout pour avoir l'opportunité de voir la réalisation de mes objectifs. 2. J'ai compris que la sensation de déséquilibre a fini par s'imposer à moi comme étant un état normal. Je vais donc inconsciemment reproduire, sans jamais remettre en question sa pertinence, et donc m'emprisonner encore plus dans ce déséquilibre. 3. Je suis avant tout un créateur de résultats. Mes pensées deviennent mes paroles. Mes paroles se transforment en actions. Mes actions façonnent des résultats. Je possède donc la capacité de mettre en place une stratégie gagnante en prenant soin de penser, parler, agir de façon différente dès lors que le résultat que je viens de provoquer ne me satisfait pas ou ne me satisfait plus. 4. J'apporte une réponse créative à toutes les situations que je rencontre plutôt que de me complaire dans le rôle de la victime qui ne cesse de blâmer les circonstances, les gens de son entourage ou encore de se culpabiliser avec méchanceté. 5. En tant qu'athlète de la vie, ma motivation est de désapprendre à ne pas agir en gagnant. Pour cela, j'intègre les 4 phases de l'apprentissage, à savoir que je suis inconscient que je suis inconscient. Je deviens conscient que je suis inconscient. Je deviens conscient que je suis conscient. Je deviens inconscient que je suis conscient. C'est-à-dire que je pense juste, je parle juste, j'agis juste, au bon moment et au bon endroit. 6. J'utilise ce principe clé de l'athlète de la vie qui veut que l'énergie soit toujours là où je place mon attention. Ce à quoi je m'attends est toujours vrai. Par conséquent, si je me sens capable d'atteindre mon objectif, je le deviens et je vais baliser le chemin pour l'atteindre. J'ose être déraisonnable en croyant avant tout en mes capacités pour concrétiser mes rêves, même si personne ne me fait encore confiance. 7. J'ai compris que le service me permet de devenir quelqu'un, alors que la notion de travail ne peut que produire quelque chose.